OK, 18h02, juste avant de parler avec Paulette, je veux vous dire qu'on va recevoir André Ducharme dans quelques minutes. André Ducharme des RBO. Les RBO ont réinventé la chanson « Le feu sauvage de l'amour » pour l'ère du coronavirus. Et on va aussi parler avec Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On va parler des limites des programmes d'aide actuels aux travailleurs qui sont mis à pied. M. Leblanc veut nous parler de ce qui se fait en Europe, de ce qui se fait de mieux en Europe, notamment au Danemark et en Allemagne. Donc, dans quelques minutes, on va parler avec Michel Leblanc. Donc, OK, parfait. Avant de parler à Paulette, petit bilan du coronavirus. OK, pour le Québec, pour le Canada, on parle à ce moment-ci, 2647 cas déclarés de coronavirus. C'est 555 cas de plus. Je vous rappelle que les provinces testent de plus en plus. Donc, il y a probablement des cas qui étaient passés sous le radar qui, là, ont été dépistés. C'est une hausse quotidienne de 26 % Chez les rétablis, on compte 113 personnes rétablies du coronavirus. J'imagine qu'on parle des gens ici qui ont été hospitalisés. Chez les morts, 4 cas de plus qu'hier. On est rendu à 28, ça c'est pour le Canada. Pour le Québec, aujourd'hui, on a dépassé la barre des 1000 cas. On est à 1013 cas dépistés de coronavirus. C'est 385 cas de plus que la veille. 4 morts, ce n'est pas une augmentation, on est toujours à 4 cas. Dans le monde, 420 000 cas. Plus de 18 000 morts, 108 000 personnes se sont rétablies. Là-dessus, on va aller rejoindre Paulette. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la COVID-19 en ce mardi 24 mars 2020, eh bien, Paul le sait. Salut, Paul!
Bonsoir, Patrick!
Donc, ce qui a retenu l'attention aujourd'hui, là, beaucoup, outre le nombre de morts qui a remonté en Italie, ce sont les déclarations, disons, intempestives de Donald Trump à Fox. Il semble pouvoir donner des ordres au virus.
Oui, mais j'ai bien écouté mon ami Raphaël Jacob qui a bien résumé la situation. Je vais t'apporter un peu plus d'eau au moulin parce que les choses évoluent tellement vite. Donald Trump a dit qu'il souhaite voir les églises américaines pleines le jour de Pâques. C'est le 12 avril.
Oui, ça ferait une belle image, a-t-il dit.
Exact. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, à 180 degrés de ce que dit le président américain, proclame que dans quelques jours, les États-Unis seront devenus l'épicentre de la pandémie. Alors, tu peux pas imaginer un discours qui dit des églises pleines, nous repartons en grande le 12 avril à Pâques, et l'Organisation mondiale de la santé qui dit on va être au beau milieu d'une crise invraisemblable aux États-Unis, justement.
Paul, je sais pas trop qui croire. Tu sais, d'un côté, les épidémiologistes, les virologistes qui ont des doctorats là-dedans, qui ont étudié les virus puis les pandémies, ou le gars qui achetait des immeubles avec l'argent de son père. Je sais pas qui croire là-dedans. Avoue que c'est pas un choix facile.
Alors, est-ce que je peux te donner un peu plus de matériel pour essayer de te faire une opinion?
Vas-y.
Dans le processus, dans l'appareil gouvernemental américain à Washington, un des secteurs les plus puissants, c'est la défense.
Évidemment.
La défense, c'est quoi? C'est le Pentagone. Et le Pentagone a parlé aujourd'hui. Leur prévision, c'est 90 jours, 3 mois, avant un retour, disons, un semblant de normalité en juillet. Et ça, c'est quelqu'un qui est quand même le secrétaire d'État à la défense de Trump qui l'a dit aujourd'hui, Mark Esper. Il faut tabler sur 10, peut-être 12 semaines. Le général Mark Milley, ça, c'est le commandant suprême, c'est le chef d'État-major américain, et lui dit qu'il s'inquiète. Il s'inquiète que lorsque nous atteindrons là une pointe de mortalité et de transmission aux États-Unis, il y ait un tel chaos social. Tu l'as dit, le tissu social américain du pays le plus puissant du monde, chaque fois qu'on a parlé de prendre des mesures pour aider les plus démunis, ça s'appelait du communisme. Tu te rappelles?
Ouais.
À une certaine époque?
Écoute, oui.
Le plan, le Obamacare a été décrit comme du communisme pratiquement par les partisans de Trump.
C'est un pays, tu le sais, tu le connais, Paul, ce
je
pays-là,
l'adore,
tu y
d'ailleurs.
Vas souvent. Et tu sais, on dit un pays, Paul, c'est plusieurs pays, et tu dis « je l'adore ». Moi, je trouve que c'est un des pays les plus fascinants sur Terre. Je considère, pour avoir, puis j'ai pas aussi autant voyagé que toi, c'est le plus beau pays au monde. Mais c'est plusieurs pays, et dans ce pays-là, il y a une mentalité individualiste, là. Ben Gaétan oui. Barrette en parlait tantôt en entrevue. Si t'es malade, c'est de ta faute. Fait qu'il y a un noyau dur qui pense que le coronavirus, si t'es malade du coronavirus, ben c'est de ta faute.
Mais est-ce que tu veux avoir un reflet de ce que tu viens de dire?
Vas-y.
Dimanche dernier, Richard Châteauvert, à New York, à New York, qui compte en ce moment, au moment où on se parle, 15 000 cas. C'est probablement l'épicentre de l'Amérique sur les 52 000 cas américains. Il a dit qu'il y a eu une augmentation de 242% des ventes d'armes à feu. On essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui peut motiver des gens à faire des tueries de masse avec armes à feu. Ça fait partie de l'ADN. C'est la notion de frontière, c'est la notion d'autodéfense. Et chaque fois dans l'histoire, dans la jeune histoire des États-Unis, Patrick, qu'on parlait de mesures, un système de santé universel, à tout le moins un Obamacare qui serait venu en aide aux plus démunis, immédiatement, la peur, le mot qui ressort, c'est du socialisme ou, dans sa phase extrême, du communisme.
Mais Paul, ce qui...
C'est ancré. Et je te le dis, j'adore ce pays pour le meilleur ou pour le pire.
C'est ce qui est particulièrement consternant, là, c'est que les États-Unis, c'est une nation d'innovation scientifique, technologique. C'est le pays qui a mis un homme sur la Lune, Paul.
Oui.
C'est le pays qui a contribué à décrypter le génome humain. C'est un pays, là, s'ils s'y mettaient, là, ils ont les ressources intellectuelles, financières, pour trouver des remèdes pour plein de maux sur la planète. Mais la question que je me pose toujours, là, c'est un F-35, là, c'est combien de ventilateurs?
Oui, mais parce que les Américains ont toujours pensé que leur Pentagone, leur ministère de la Défense, allait défendre en tout temps l'Amérique. Tu sais que quand ils ont été attaqués par les Japonais le 7 décembre 1941 à Pearl Harbor, un très grand président s'est levé. Il s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Et il a dit, c'est un jour d'infamie, mais nous allons triompher. Parce que traditionnellement, les Américains ont traversé des guerres traumatiques. Écoute, leur guerre civile américaine, leur guerre de sécession, qui a duré 4 ans, de 1861 à 1865, est encore ancrée dans leur traumatisme. Les confédérés du Sud qui voulaient garder l'esclavage font encore flotter dans plusieurs États, la Géorgie, la Caroline du Sud.
Ce drapeau-là?
Oui, le drapeau des confédérés flotte encore. Donc, on n'est pas remis d'une guerre qui avait fait plus de 1 million de morts entre Américains. Comment a-t-on remercié Abraham Lincoln pour avoir sauvé la nation? On l'a assassiné au théâtre Ford à Washington. C'est pour ça que je te dis, c'est une grande nation.
Okay.
C'est la plus grande des nations. Mais on l'aime pour le meilleur et pour le pire parce que nous n'avons pas dans notre ADN ces éléments qui définissent malheureusement le pire de la société américaine.
OK, parle-moi d'un premier décès d'un mineur aux États-Unis, premier décès de COVID-19.
Ben oui, puis il y a un État américain qui clamait la semaine dernière n'avoir aucun cas, la Virginie occidentale. Et la Virginie occidentale, dans l'histoire américaine, ce qui a soutenu l'emploi, c'était les mines. Eh ben, la semaine dernière, tout à coup, le gouverneur a dit, attendez là, c'est pas parce que nous avons une formule miracle à l'abri du coronavirus, c'est que mon État est tellement pauvre que je ne peux pas tester les gens. Alors, tôt ou tard, nous allons avoir une situation hors de contrôle. Et c'est un mineur, donc, qui est mort. Mais est-ce que je pourrais finir sur le Pentagone?
Oui, vas-y.
Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, parle de plus en plus fort. Et le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, si tu préfères, Mark Esper, parle de plus en plus fort. Si Trump ne voit pas son rêve se réaliser, d'un départ soudain et d'un retour à la normale autour de Pâques, moi, j'ai l'impression que le Pentagone va prendre de plus en plus place. Et tu sais qu'ils, dans la Constitution américaine, ils ont la possibilité, en situation de crise, c'était surtout réservé pour la guerre, de prendre de plus en plus de place dans l'administration, avec loi martiale et tout ce que tu veux. Alors donc, c'est à surveiller. Mais là, la situation aux États-Unis, selon l'OMS, c'est que dans quelques jours, New York en particulier.
Et que c'est ça inquiétant. Va être épouvantable.
Ah, c'est inquiétant. Écoute, as-tu vu les commentaires du gouverneur Andrew Cuomo?
Écoute, ils ont besoin de, corrige-moi si je me trompe, 30 000 ventilateurs, là, des respirateurs artificiels. Le gouverneur fédéral en a envoyé 400.
Veux-tu savoir la meilleure pour ajouter à ce que tu viens de dire? Tu parles de ventilateurs. Le gouverneur Cuomo a dit, nous avons besoin de 140 000 lits. Le double de la pire des situations jamais imaginées pour ce grand État qui compte quand même 20 millions d'habitants. Rapidement, je veux te dire que Sebastian Coe, le grand quadruple médaillé olympique, le plus grand coureur de demi-fond de son époque et président de la Fédération internationale d'athlétisme, Athletics, World Athletics, a réussi à gagner contre le CIO et le comité organisateur de Tokyo, parce que je t'en parlais hier.
Ben oui, t'étais fâché.
Et je peux pas m'empêcher de revenir sur l'ancien président italien de la Fédération internationale qui avait cloué le bec au président du CIO, Juan Antonio Salaranche, en lui disant « pas d'athlétisme, pas d'Olympique ». Alors, Sebastian Coe en disant « mes athlètes, dans le sport numéro un, celui qui domine tout », aux Jeux olympiques, n'iront pas. Alors, évidemment, ça s'est enchaîné assez rapidement.
Et écoute, Astérix a perdu un de ses papas, qui Uderzo est décédé. C'est quoi le lien avec le coronavirus?
Alors, tu n'en reviendras pas et j'ai l'impression que les gens vont tenter de se procurer cet album d'Astérix qui est sorti en 2017. D'abord, la mort d'Uderzo à 94 ans, lui et Goscinny, créateur d'Astérix, qui ont pondu évidemment des chefs-d'œuvre, oui. À peu près 400 millions d'albums vendus. Et ben en 2017, il a lancé, et ça a été publié à 5 millions d'exemplaires, Astérix et le Trans-Italique. OK? Alors, c'est le nom de l'aventure. Astérix et la Trans-Italique. Et ça met en scène, Patrick, c'est incroyable, ça met en scène un coureur de chars masqué qui devient le principal ennemi d'Astérix et d'Obélix. Sais-tu quel est le nom du personnage?
C'est quoi?
Coronavirus. Il est accompagné...
C'est très Astérix comme nom.
Oui, mais il est accompagné de son fidèle compagnon, Bacillus. Bacille. Et champion dans son domaine. Et quand il enlève son masque, c'est la figure du coureur de Formule 1, Alain Prost. Ils l'ont caricaturé. Mais ça s'invente pas. Uderzo avait écrit en 2017, avec ses co-auteurs Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, dans Astérix et la Transitalique, que le personnage qui affrontait Astérix était coronavirus.
Ben, encore une fois, ton troisième sujet nous fait sourire, cher Paul.
Bonne soirée, gardez espoir, courage.
Salut, 18h15, après la pause, André Ducharme de Rock et Belles Oreilles, de RBO, va être là parce que les RBO ont remis au goût du jour, au goût de la COVID-19, leur classique, Le Feu Sauvage de l'Amour, après la pause.